Chapitre 15. Jacques-Louis David. Que l'antique te serve d'avenir. À la brocante, l'amateur de figurines Vertouni n'était jamais repassé. C'était regrettable car Paul avait commencé un inventaire superficiel de celles qui se trouvaient dans le vieux carton perdu, et sur les 329 qui y sommeillaient, en avait disposé une bonne quinzaine dans la boutique. Conseillé par Mona, il avait décidé de les disséminer, chacune dans une situation particulière, au lieu de les regrouper comme un bloc homogène de marchandises. Un dimanche, après avoir terminé ses devoirs, la fillette décida de rejoindre son père afin de poursuivre les mises en scène. Elle tenait à isoler une petite effigie en plomb d'un homme allongé sur un banc, en la plaçant dans le faisceau d'un tube lumineux, afin de créer l'illusion d'une sieste estivale. Pour y parvenir, elle devait décaler légèrement la croche du néon. Cela impliquait de déplier un escabeau et d'y grimper, de s'emparer d'un marteau, de planter un clou dans le mur. Autant de choses qui, quand on s'y est déjà essayé, paraissent absolument évidentes. Autant de choses aussi qui, en l'absence d'une première fois, constituent un inconnu promettant un vaste spectre de menaces et blessures. Paul rappela tendrement à sa fille qu'il était le bricoleur du foyer et qu'il mènerait donc l'opération. Le refus de Mona fut clair, presque brutal. L'escabeau brinque-ballait. Le marteau pesait lourd. Malgré son inexpérience, Mona se débrouillait cependant à merveille. Quand survint un imprévu, au dernier coup de masse sur le bout de métal, elle sentit quelque chose se rompre. Par un inexplicable concours de circonstances, le fil de pêche qui retenait son pendentif et sur lequel le terrible Guillaume avait tiré quelques jours auparavant se délia. Au ralenti, le coquillage chuta, percuta le plateau sur lequel reposaient les pieds de l'enfant, y roula, bascula dans le vide et traversa les croisillons d'une grille de ventilation. Le cœur de Mona éclata. Elle se mit à hurler. Paul bondit et d'un bras l'attrapa comme un paquet pour la redescendre, s'imaginant qu'elle s'était esquinté un doigt. Il échoua à la faire parler pendant 5 bonnes secondes, jusqu'à ce qu'elle s'accroupît en disant « Mamie !» C'était incongru, presque comique, mais Paul comprit instantanément ce que cela signifiait. Le pendentif était tombé, perdu peut-être. Il fut alors sidéré par ce qu'il vit. La bouche d'aération où gisait l'objet était barrée par une grille en fonte, très volumineuse, à rebuter le plus costaud des forçats. Mona n'en eut que faire. Sans ajouter une parole, elle tira dessus avec l'obscure détermination d'un séquestré. Une, deux, trois, 5 tentatives, à s'en casser les poignets. À la 6e, la grille céda. Mona plongea jusqu'au coude dans les ténèbres de la cavité et récupéra le fétiche. Alors, soulagée, elle put fondre contre la poitrine de son père et y répandre un torrent de larmes. Au dîner qui suivit, Mona raconta l'histoire à sa mère, sans insister, sans se vanter de rien. Elle alla vite se coucher après son dessert, qu'elle n'avait d'ailleurs pas avalé tout à fait. Mais une fois glissée dans son lit, sous son affiche de Sera, la petite fut désormais hantée par une question. Ne devait-elle pas dire à ses parents que pendant ces interminables secondes où son cœur avait bondi, 1001 taches noires lui avaient à nouveau volé sa vue? Cette séance du mercredi serait la dernière consacrée à une œuvre de l'Ancien Régime, constata Henri. Diable, se dit-il, voilà déjà passé la mi-février. Les semaines se bousculent et il est désormais urgent de présenter à Mona au moins une commande officielle de la monarchie plutôt qu'un tableau de chevalet. Il réalisait au passage combien le panorama artistique qu'il traçait pour l'enfant risquait d'être troué par quelques occultations fâcheuses. Soit. Il s'attaquerait aujourd'hui à une grande commande, si grande même que l'homme à qui elle fut passée en 1783, réputé pour son tempérament extraordinairement orgueilleux, eut l'audace de rendre 2 ans plus tard une toile d'une taille excédant ce que lui avait prescrit le directeur général des bâtiments du roi. Cela n'avait guère plu. Et mieux encore, cette œuvre, bien qu'exécutée pour Louis XVI, devait être rétrospectivement considéré comme le grondement déjà vif d'un tremblement de terre insurrectionnel inédit dans l'histoire. Il convenait d'expliquer tout cela à Mona, qui en approchant semblait reculer, entre timidité et méfiance. C'était l'instant d'un serment collectif. Les lieux et les costumes étaient ceux de l'antique. D'une minéralité sévère, le sol se structurait en un pavement gris et briques légèrement usées, tandis que l'arrière-plan déployait la succession de trois arches montées sur des colonnes d'ordre dorique. Elles ouvraient sur une pénombre épaisse. Les murs latéraux, en pierre taillée très régulière, achevaient de combler cette scène que dramatisait la recherche de symétrie et la vive lumière allant de la gauche vers la droite. C'était dans cette dernière direction que se lisait l'action, rythmée en outre par la triple arcature. On voyait d'abord trois personnages, jeunes, masculins, serrés les uns contre les autres, et dont les silhouettes se répétaient dans la profondeur en formation rangée. Ils étaient coiffés de casques à cimier, chaussés de sandales à lanières, et habillés de toges aux pans de tissu rouge, bleu et blanc. Ils avaient la même position, jambes écartées à 60 degrés, un bras tendu à l'horizontale dans la ligne de leur regard, paume orientée vers la terre. La main droite du deuxième serrait la taille renforcée par une plaque d'armure du premier, qui lui-même tenait une lance dont la base était calée contre son mollet. Les bras tendus convergeaient vers trois glaives, que brandissait face à eux un homme à la barbe et aux cheveux gris, dont le visage anguleux, au nez prononcé, était puissamment mis en valeur par le faisceau de lumière dont il fixait la source, yeux tournés vers les hauteurs. Enfin, par une sorte de rime visuelle avec les trois hommes, les trois glaives et les trois arcades, il y avait trois femmes assises, accablées par une détresse muette. Les corps étaient avachis, les visages fermés. L'une, dans la profondeur, entourait dans ses bras et les drapés bleus de sa tunique un duo de bambins dont l'un, le plus âgé, épiait le groupe central. Les deux autres, en point final de l'œuvre, appuyaient leurs têtes l'une contre l'autre et se désolaient ensemble. La touche très léchée, mais sans aucune afféterie, permettait d'observer dans ses plus infimes détails la précision extraordinaire des lignes et des rendus, depuis la moindre veine palpitante à la surface d'un pied jusqu'au mortier corrompu courant sur les fines lamelles des voussoirs. Dadé, je sais que tu es souvent allé voir la guerre, mais moi, les batailles et les armes, je déteste ça.
Je n'aime pas non plus, Mona, et peu de gens en demeurant apprécient les carnages et la mort. En fait, la scène que tu vois découle d'un épisode de l'histoire du 7e siècle avant notre ère, où justement on voulait éviter que trop de sang ne coule lors d'un conflit entre Albe et Rome, deux villes voisines. Pour s'épargner un massacre, on décida que le règlement du conflit dépendrait de l'issue d'un seul combat entre les trois meilleurs guerriers de chacune des cités, les frères Horace pour le camp romain et les frères Curias pour les Albains. C'est un moment de sacrifice intolérable, car les deux familles sont par ailleurs liées. Regarde les deux femmes sur le bord droit. Voici Sabine, l'épouse de l'aîné des Horaces et sœur des Curias, et Camille, sœur des Horaces et unie à l'un des Curias. Quel que soit le vainqueur, donc, l'issue du combat se révélera fatalement insoutenable de douleur. Pourtant, les trois fils Horaces prêtent ici serment devant leur père. « Nous triompherons ou nous mourrons », lui déclare-t-il. Une cause au-delà d'eux-mêmes les transporte.
« Mais c'est horrible! Il est cruel de peindre ça !»«
Ce n'est pas faux, » songea le vieil homme. Mais il se contenta d'un silence éthéré. Bien sûr, il avait envie de raconter que David, élu député à la Convention, vota sans ciller l'échafaud pour Louis XVI, dit Capet, soutint les bains de sang de la terreur, et ne barguignait pas devant ses anciens camarades ou commanditaires coupés en deux en place publique. À quoi il aurait fallu ajouter qu'au moment d'être inquiété à son tour, fin 1794, David renia piteusement son ami Robespierre pour échapper au souffle d'air frais sur la nuque de Guillotin. Et enfin que sa passion pour la démocratie, sa foi dans les valeurs de l'ami du peuple Marat, qu'il peignit en martyr dans sa baignoire, s'accommodèrent sans problème 10 ans plus tard d'un culte à l'empereur Napoléon. Mais expliquer ce destin en zigzag,
C'était d'emblée condamner l'homme, épouvantable, aux yeux de sa petite fille. Et ça, Henri ne le voulait pas non plus, sous peine de rendre inaudible le message de l'artiste, qui s'avérait colossal. Je ne crois pas qu'il aimait la cruauté. Retiens plutôt cela. David était un homme en révolte. Il mena une offensive déterminée contre les mœurs et les idées des libertins.
Ah, je me rappelle, tu m'en avais parlé devant Watteau, hein?
Oui, l'esprit libertin, très répandu sous Louis XV, est encore vivace sous Louis XVI. Il est incarné par l'écrivain et aventurier vénitien Giacomo Casanova, ou en peinture par Maître Frago, que nous avons évoqué la dernière fois. Et surtout, par le célèbre François Boucher. Alors que David sortait à peine de l'adolescence et que Boucher s'apprêtait à mourir, ils se rencontrèrent brièvement. L'aîné se contenta de prodiguer des conseils au jeune garçon sans être son professeur et n'eut pas le temps de le voir devenir le plus éminent artiste de son époque. Ce fut sans doute mieux pour lui, car comme le dit Victor Hugo, David a fini par guillotiner Boucher, symboliquement bien sûr. Mais admiré du public, adulé par ses élèves, devenu tout-puissant, David devint en effet l'impitoyable fossoyeur du rococo. Ce travail de sape est à l'œuvre dans ce Serment des Horaces. Depuis la stricte géométrie du décor jusqu'aux attitudes inflexibles des protagonistes, tout y est sévère, net, ordonné, sous-tendu par quelque chose d'héroïque. Le charme des conversations au parc de Gainsborough semble déjà d'un autre monde.
Quant au pauvre Pierrot de Watteau, il est même au fond du fossé.
Parfaitement observé. Te souviens-tu de ce que je t'avais dit au sujet de Vivant de Nom, qui tombe sur Pierrot et l'achète en 1804, l'année même où il devient le premier directeur du Louvre? Eh bien, figure-toi que David lui en fit vertement reproche.
Dis donc, il a l'air un peu horrible, ce David. Son caractère est fait pour les gens qui aiment la bagarre. Et j'ai l'impression que tu es d'accord, Dadé.
Non, j'admire David. Sa peinture est un paroxysme de ce qu'on appelle l'idéal des Lumières, un idéal fondé sur l'appel à la raison, au civisme, à l'égalité pour toutes et tous, contre les intérêts égoïstes, l'arbitraire du pouvoir et l'obscurantisme des dogmes religieux. Ce Serment des Horaces exalte bel et bien ses valeurs. Regarde les trois guerriers. Les bras tendus et la position des jambes témoignent de leur résolution implacable. La main à la hanche marque leur solidarité. Et observe avec quelle précision David représente les corps. Il veut que chaque muscle soit bien saillant pour magnifier le sens de l'action. Il dessinait d'abord ses modèles nus dans les études préparatoires, afin de saisir le moindre détail de l'anatomie, ce qui n'empêchait pas ensuite de tricher un peu en allongeant par exemple légèrement un membre pour qu'il s'inscrive au mieux dans la vigueur de la composition.
Il ressemble un peu à des statues, on dirait.
Oui, exactement. David ne fut pas sculpteur lui-même, mais les personnages de sa peinture sont très sculpturaux. Il pose des vêtements aux tonalités froides sur ses protagonistes. Et si l'on se montre attentif à leur peau, on y voit une carnation qui tire autant sur le gris que sur le rose. Quant aux effets de l'éclairage, ils exacerbent chaque fois les reliefs et les arêtes du corps. Leur attitude s'intègre à une histoire monumentale, digne d'être statufiée. Il faut dire que l'année même de la naissance de David, en 1748, on faisait d'immenses fouilles archéologiques et l'on redécouvrait Pompéi. Des pans entiers du passé ressurgissaient physiquement.
Alors c'est pour ça qu'il peint cette bataille de l'Antiquité ?
Eh oui. Même si l'Antiquité était déjà largement une référence depuis la Renaissance, cette période connaît dans la seconde partie du XVIIIe siècle un engouement renouvelé et intensifié. David avait fréquenté et lu un écrivain prussien du nom de Johann Joachim Winckelmann, un homme au savoir phénoménal qui avait longuement parcouru les ruines et les vestiges des anciennes cités grecques et italiennes et qui en avait classifié les styles. Winckelmann fut malheureusement assassiné à 50 ans à peine dans la chambre d'une auberge. Quoi qu'il en soit, David épousa sa doctrine qu'on baptisa le néoclassicisme, une doctrine qui considère comme indépassable les modèles antiques.
Mais en fait, Dadé, cela veut dire que David aurait préféré vivre dans le passé ?
C'est tout le paradoxe. David, je te le répète, était un homme en révolte. Et un homme en révolte ne s'embarrasse pas de nostalgie. Notre devoir, dit-il, est de connaître ce passé, afin de s'en inspirer et d'y puiser des valeurs pour construire l'idéal futur, celui des Lumières. Vois maintenant l'enfant aux boucles blondes. Il est en retrait, caché par sa grand-mère affligée qui le couve. Il n'est pas qu'un détail dans l'œuvre, loin s'en faut. Son expression est-elle inquiète? Sans doute, oui. Comment pourrait-il en être autrement? Ce n'est encore qu'un gosse. Pourtant, il soutient du regard le spectacle des Horaces, prêtant serment. Ainsi symbolise-t-il la tension vers l'avenir, le renouveau, un espoir de régénération, au-delà de la tragédie en cours. Et lui aussi, dans son agitation, dans son déchirement entre le drame qui se joue et l'admiration qu'il éprouve pour les Horaces, est déjà en révolte. Tu as gagné. Je commence à l'aimer un peu mieux, ton David. Tant mieux. Cette œuvre date de 1785. Or, peux-tu dire ce qui se passa 4 ans plus tard, le 14 juillet 1789 ? Je te l'explique chaque fois que nous passons sous la colonne de Juillet et son génie de la liberté. La prise de la Bastille, juste à côté de là où tu habites. Tout à fait. Et il y eut auparavant un autre événement. Dès le 20 juin, dans la salle du jeu de paume à Versailles, un serment scella la résolution de toute une assemblée à rédiger une constitution plus juste. Cette assemblée, soudée contre l'absolutisme, représentait ce qu'on appelait le tiers-état, c'est-à-dire à peu près tout le monde, hormis la noblesse et le clergé. Ce fut, d'une certaine manière, le début de la Révolution française. Figure-toi qu'on chargea David de peindre ce moment fondateur. Il a commencé son immense toile sans jamais réussir à l'achever. Peu importe. Le serment, lui, eut des conséquences énormes. Il aboutit à l'abolition des privilèges le 4 août de cette même année et le 26 à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce texte affirme que toi et moi, moi et toi, toutes et tous et tout un chacun, nous naissons et demeurons libres et égaux en droit. Et cela, vois-tu, c'était véritablement l'accès tant espéré à l'idéal des Lumières. Cela valait donc bien la peine d'être en révolte. Mona et Henri quittèrent les lieux. La petite était comme sonnée par cet après-midi au Louvre. Au seuil de chez elle, à Montreuil, à l'angle de la rue Barat, elle regarda son grand-père d'un air préoccupé qui rappelait celui de l'enfant blond de David. Elle lui demanda si elle aussi était en révolte. Il sourit, l'aima plus qu'il ne l'avait jamais aimée. « Non, Mona, tu es en révolution. »